Prince en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et derrière le pinson, des abominables traces et des monstres inconnus. La zoologie est une vieille science. Si l'Antiquité fut passionnée des chevaux et que cet animal a bouleversé les économies de l'époque, d'autres animaux ont très vite complété notre bestiaire, accompagnant souvent la cartographie des terres et des mers inexplorées. D'incroyables monstres ont été figurés sur les blancs de la carte, et entre sirènes, griffons, dragons et autres monstres inconnus, le monde a peuplé ses vides. Même l'étalon et la jument ont connu cette inouïe dérive pour former le centaure, la licorne, et même parfois, en leur associant quelques ailes, des pégases. Si il y a peu de doute que la mythologie se soit nourrie de fantasmes et de peurs, certains se sont quand même posé la question de savoir si quelques étonnants organismes n'auraient pas pu étayer l'existence de ces figures prodigieuses. On pourrait s'étonner que des gens sérieux, usant d'une méthodologie scientifique, aient pu s'intéresser à ces légendes, au point parfois de monter des expéditions à la recherche de ces choses-là. Mais on pourrait tout autant s'étonner que d'autres, au contraire, aient rejeté la possibilité de ces affaires sans leur accorder la moindre attention. Car en effet, avant l'observation de l'éléphant ou de la girafe, comment étaient racontés ces extraordinaires animaux? Que peut-on dire aussi de l'énigmatique ornithorynque? Car si la familiarité permet souvent d'imaginer leur existence, il est cependant des caractéristiques si étranges qu'on peut facilement douter de leur réalité. Mais voilà, comment faire la part des choses entre monstres imaginaires et espèces inconnues? Nous allons voir que, comme dans une enquête policière, il convient cependant de ne pas accorder tout crédit à un simple témoignage. Même répété ou décliné en diverses nuances, le témoignage humain reste la chose la plus fragile qui soit. Notre cerveau est ainsi fait que l'interprétation des éléments visuels est toujours soumise à une réorganisation cognitive. Nous ne voyons pas, nous regardons les choses et nous assemblons a priori des formes et des couleurs qui sont distinguées, tout ça pour fabriquer des formes mentales qui nous conviennent. Qui d'entre nous n'en a pas déjà fait l'expérience? Se promenant à la tombée de la nuit dans les brumes vespérales peut émerger d'un seul coup une forme incroyable à qui l'on va vite prêter la morphologie d'un monstre. Mais, pendant un court instant, l'hallucination paraît bien réelle. Il y a parfois des éléments matériels qui suggèrent une autre présence, une espèce nouvelle. Alors pourquoi ne pas examiner d'un peu plus près, et avec des yeux de scientifiques, ces espèces cachées qui parfois ne laissent d'elles que de très minces indices? Vous l'aurez compris, auditrices et auditeurs passionnés, nous allons aujourd'hui côtoyer cette discipline que l'on nomme la cryptozoologie et qui est si avide d'abominables traces et de monstres inconnus. Et pendant 1h30, entre imaginaire et réalité, nous allons essayer de voir ce que la démarche scientifique implique.
C'était Lionel Belasco qui interprétait Miranda. Bonjour, nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie. Aujourd'hui, dans une nouvelle émission de Science en Liberté, nous allons nous laisser à la problématique de la cryptozoologie et des monstres inconnus. Alors Thierry, nous voilà encore sur des frontières étranges à la limite du raisonnable et de l'intrigant. Il existerait des traces incroyables d'animaux disparus ou de monstres inconnus. Entre Loch Ness, forêt américaine, nous allons aussi traquer l'abominable homme des neiges.
Eh oui, c'est un peu ça, Siona. En fait, pour être un peu plus raisonnable, nous allons nous intéresser à cette recherche apparemment scientifique qu'on appelle la cryptozoologie. Alors la cryptozoologie, ça a toute l'apparence d'une science, reste à savoir évidemment ce qu'on en fait. Dans la réalité, on va s'apercevoir qu'on est vraiment à la limite de ce qui est encore de la vraie science. Cryptozoologie, ça vient de cryptos en grec, qui veut dire les choses cachées, les choses inconnues. Et en zoologie, bien sûr, ça veut dire l'étude des animaux.
Donc Thierry, il ne s'agit pas d'une simple plaisanterie, il existe une science des monstres inconnus, la cryptozoologie.
Eh oui, vous avez entendu parler du Loch Ness ou encore de l'abominable homme des neiges. Eh bien, si vous en avez entendu parler et que cela vous intéresse, vous faites sans le savoir de la cryptozoologie comme on peut faire de la prose comme M. Jourdain, c'est-à-dire sans le savoir. Alors, ce terme cryptozoologie a été inventé par un biologiste qui s'appelle Ivan Sanderson, qui est un néologiste, qui en fait avait pour but de désigner une science qui veut étudier le plus objectivement possible des animaux qui ne seraient connus que par des témoignages, des pièces anatomiques ou des photographies. Alors, on a l'habitude de dire que ces animaux cachés, ces animaux dissimulés, ce sont des cryptides, d'où le terme de cryptozoologie. Alors, il y a une cryptozoologie, mais il y a aussi une cryptobotanique, par exemple, dans le cas de végétaux qui sont supposés, comme par exemple les arbres mangeurs d'hommes. Hein.
Carrément.
Voilà. Et en fait, c'est surtout un biologiste qui a fait ses études en France, mais qui est un Belge d'origine, Bernard Heuvelsmann, qui est mort en 1901, à qui on doit l'élaboration...
Non, en 2001.
En 2001, pardon, j'ai dit combien ?
1901, là,
ça faisait un
peu de... en fait, il est assez récent.
Voilà, il est né en 1916, donc il ne pouvait évidemment pas mourir en 1901, c'est en 2001 qu'il est mort. Et on doit à cet homme, à Bernard Heuvelmans, l'élaboration de la cryptozoologie, avec notamment un livre qui est extraordinairement célèbre, Sur la piste des bêtes ignorées. Voilà, pourquoi nous en parlons ?
Continuons donc sur cette piste. Qu'est-ce qui caractérise vraiment la cryptozoologie par rapport aux autres sciences ?
Eh bien, dans la cryptozoologie, c'est l'étude des témoignages qui est le point de départ. Les recherches se focalisent donc sur cela. La cryptozoologie se présente en tant qu'étude et recherche scientifique d'animaux de moyenne et de grande taille qui ne sont pas encore officiellement connus ou dont l'existence reste encore officiellement controversée. La réalité de ces animaux devrait normalement être établie sur la base de témoignages, de preuves plus ou moins circonstanciées, comme des films, des photos, des enregistrements de cris, ou même par des indices dits otoscopiques, c'est-à-dire des empreintes, des pieds, des poils, etc. Mais tous ces éléments restent des interprétations qui sont généralement considérées comme très insuffisantes par la communauté scientifique. En général, on considère en cryptozoologie que la découverte de l'existence d'animaux qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, ça ne fait pas partie de la cryptozoologie, car cette cryptozoologie se concentre sur la recherche de preuves de l'existence de monstres qui sont déjà catalogués dans les mythologies populaires ou dans l'histoire. Et voilà pourquoi la cryptozoologie se focalise principalement sur le monstre du Loch Ness ou encore l'abominable homme des neiges. Donc, pas de recherche d'une espèce d'insecte qui serait discret ou d'une nouvelle souris.
Donc la cryptozoologie s'intéresse finalement aux bestiaires des mythologies.
C'est ça, tout ce qui a pu frapper au cours de l'histoire la mythologie populaire. En fait, chaque civilisation a inventé des espèces, comme par exemple le centaure dans la mythologie grecque, le centaure ou encore le griffon. Tout ça, ça apparaît à partir du début de la mythologie, au 4e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Le griffon, c'est un corps de lion avec une tête et des ailes d'aigle. C'est une créature légendaire qu'on retrouve dans plein de mythologies, avec l'arrière d'un lion muni d'oreilles de cheval. On voit à chaque fois qu'il s'agit d'une combinaison de caractères d'espèces qu'on connaît et dont l'assemblage est tout à fait incongru pour fabriquer un monstre particulier.
Et l'invention de ces créatures mythiques répond à quel besoin humain ?
Alors, en prenant l'exemple du dragon ou encore des histoires que le dragon véhicule, on va comprendre ce qui se passe. Pour le dragon, c'est assez difficile de déterminer une origine géographique. L'apparition de ce monstre semble dater de toutes les premières civilisations, même si la mythologie du dragon est un peu plus prégnante dans le monde médiéval avec la légende nordique, du Nidhogg. On le retrouve aussi dans la civilisation chinoise. Il est représenté comme une créature ailée, armée de griffes et parfois crachant le feu. Le dragon occidental se retrouve plutôt dans des lieux fermés, des tanières souterraines, des châteaux ou encore des grottes. On pense qu'il est issu d'un mélange de l'hydre de la mythologie grecque. Le terme draco lui renvoie à la mythologie romaine, à la culture romaine qui parle d'un serpent. Mais on voit que tous ces monstres sont d'abord construits d'assemblages. Là, on a placé une tête, des ailes. Alors évidemment, d'un point de vue cryptozoologique, plusieurs théories ont été émises pour expliquer ces particularités morphologiques et physiologiques. Les dragons ne peuvent pas, pour l'instant, être expliqués par nos connaissances scientifiques actuelles. Elles réfutent même complètement l'existence d'existence d'animaux qui pourraient être composites de cette manière-là. Il n'y a donc aucun moyen actuellement connu qu'une telle créature puisse vivre alors qu'elle serait composite et issue de toutes ces légendes.
Parce que ces animaux fabuleux possèdent un rôle dans une civilisation ?
Le dragon, c'est toujours l'objet d'un mythe fondateur pour la classe militaire. C'est un monstre mi-volant, mi-ogre qui s'attaque au bas peuple et qu'un héros vient vaincre. Le chevalier, le héros, est alors celui qui va délivrer le peuple. Et comme il va délivrer le peuple en général va l'élire comme le roi, comme le dominant du groupe. Le
héros quelque va... part, il vient sauver les humains. C'est un peu à ce besoin-là.
C'est, c'est ce besoin-là. Le dragon est en quelque sorte l'image de persécution qui, serait, qui viendrait d'ailleurs. Et ces persécutions qui viendraient d'ailleurs sur le peuple va fonder la royauté et peut aussi fonder la dictature. Celui qui va diriger le dragon sera le chef. Les dragons européens possèdent généralement des dimensions gigantesques. Le Ouroboros, par exemple, est un peu moins connu. C'est le fameux dragon qui se mange la queue.
Ah oui, fantastique.
Voilà. Et bien entendu, on va avoir des saints ou des guerriers qui vont venir vaincre le dragon, comme Saint Georges, par exemple. Tout ça, ça va permettre de devenir le chef spirituel du bas peuple. Et on comprend évidemment l'intérêt de ces mythes pour les dominants.
Une position de pouvoir.
Très, très vite, on s'aperçoit qu'en effet, ces espèces ne sont pas liées au hasard, mais qu'elles sont bien construites dans un esprit de dominance du peuple. Et il est souvent clair que c'est une image d'Épinal qui est destinée aux contes pour enfants lorsque le bas peuple n'y croit pas. Il faut une légende avec une chevalerie particulière pour que ça puisse se faire. Petit à petit, au lieu de délivrer le bas peuple, le dragon ne sera plus que l'emprisonneur d'une belle, que le prisonnier qui sera prisonnier du dragon et qu'un gentil chevalier va venir sauver. Là, du coup, c'est la femme qui reste finalement la dernière à dominer par le dragon.
Ah là là là, toujours. Mais il signifie aussi autre chose dans le cas des serpents de mer, par exemple.
Oui, les serpents de mer, eux, sont des monstres marins, des monstres aquatiques mythiques, qui possèdent des dimensions gigantesques. Et là, c'est pour illustrer, en quelque sorte, le danger maritime. Donc, tant qu'on ne connaît pas bien la mer, ça montre le courage des marins. Évidemment, ça permet là encore de dégager un chef, un capitaine qui va bien protéger, emmener le bateau là où il faut. Et si le capitaine échoue, que le bateau fait naufrage, on pourra toujours accuser le serpent de mer. C'est lui le coupable qui est bien pratique pour excuser l'incompétence du capitaine ou les dangers de ces mers inconnues.
Il existe aussi des animaux légendaires et plus bénéfiques, comme la sirène, par exemple.
Alors, c'est pas forcément que bénéfique, la sirène. Il faut bien voir que c'est une créature mi-femme, mi-poisson, qui est issue de l'Antiquité. Dans le folklore médiéval ou scandinave, on va la retrouver plutôt mi-femme, mi-oiseau. On lui attribue un rôle important dans le cas des marins égarés dans les brouillards, à cause de sa litanie, celle qui a séduit Ulysse. Donc ça reflète d'ailleurs peut-être la réalité du chant des baleines, c'est peut-être à partir de là. Il y a aussi la licorne, qui est une créature légendaire à cornes uniques, qui est connue depuis les récits les plus antiques, on le retrouve dans le sanskrit, en Inde, etc. Ces animaux vont se différencier par un symbolisme qui est positif, mais c'est aussi parce qu'on va, grâce à ses dons, pouvoir vendre des médicaments. Elle va procurer l'immortalité, voire l'amour. En fait, il faut bien penser que les bestiaires médiévaux décrivent tous ces animaux comme des animaux fabuleux, des animaux forestiers souvent secrets et pour cause, qui vont être des symboles et qui vont être malgré tout des hybrides entre le cheval et la chèvre blanche, par exemple, pour la licorne ou encore pour la sirène, une sorte de mi-femme, mi-poisson. Ce sont des symboles qui vont permettre de raconter qu'on peut trouver éventuellement des ressources, des médicaments ou des explications à des choses inconnues.
Mais pourquoi ces bêtes impossibles sont-elles à ce point-là des mélanges de caractères de plusieurs animaux à la fois ?
Parce qu'elles sont directement issues de l'imaginaire, qui est l'élément le plus important du Moyen-Âge et de la Renaissance. Alors, il y a beaucoup d'animaux exotiques qui vont avoir des caractéristiques qui sont déjà difficiles à bien interpréter. Pensez par exemple au bosse des chameaux, pensez encore à l'éléphant et sa trompe. Ces difficultés d'interpréter ça quand on n'en entend parler que par ouï-dire vont évidemment conduire déjà à l'élaboration de monstres un peu fantastiques. Et comme on est frappé par l'existence de ces animaux si particuliers qu'on avait du mal à les imaginer, il est assez facile de comprendre que, à travers des espèces décrites, redécrites, à travers des récits répétés, qui sont mythologiques, mais qui servent aussi à effarer le bon peuple, qui servent aussi à raconter « moi j'ai vécu une aventure prodigieuse » ou « alors on a rencontré telle et telle espèce », ce sont des récits qui sont faits pour tenir en haleine un public, un spectateur. Et donc, à travers ces récits inconnus, on prend en quelque sorte le pouvoir, on devient plus palpitant, on devient plus intéressant, surtout si en plus on s'est battu, voire qu'on l'a capturé. Et de proche en proche, il fallait lui attribuer des éléments qui soient compréhensibles pour les gens du coin. Donc on ne pouvait pas lui raconter des organes impossibles, il fallait parler d'organes qu'on connaissait. Les ailes de la chauve-souris mises sur le dos d'un serpent, et on multiplie tout ça par X fois la taille et on obtient un dragon. Donc ça paraît extraordinaire parce que cet assemblage est nécessaire pour fabriquer l'imaginaire. Mais c'est aussi parce que c'est très difficile de décrire des vrais animaux si on n'a pas de référence. Essayez donc par exemple de décrire un éléphant, vous êtes obligé de dire il a une sorte de queue devant, une queue derrière. Vous voyez, si on n'a pas la référence de la trompe, ça devient compliqué. Ceci dit, on n'a toujours pas réussi à trouver des éléphants roses.
De femmes les plus populaires dans les années 60. Les Coquettes, avec la chanson La Licorne.
Il y a longtemps, quand la terre était verte, il y avait toutes sortes d'animaux que vous n'avez jamais vus. Ils couraient librement quand la terre fut née. Mais le plus beau de tous était la licorne. On dit de grands soins des alligators verts, des hippopotames, des chimpanzés, des chats, des rats, des éléphants, on c'est sûr que vous êtes nés. Mais le plus beau de tous était la licorne.
Il était tellement fâché que ça lui faisait mal. Alors il dit, mais surveillez-vous, car longtemps il pleuvra. Il dit, hé frère Noé, je vais te dire quoi faire.
Construis-moi un souffle-là et voilà quelques-unes de ces grands oies, des alligators verts, des hippopotames, des chimpanzés, des chats, des rats, des éléphants, c'est sûr que vous êtes nés. Mais ne va pas s'oublier, ma licorne.
Le vieux Noé était là pour répondre à l'appel. Il finissait de construire son arche et la pluie se mit à tomber. Il conduisit les animaux deux par deux et dit alors qu'il passait, hé Dieu, j'ai eu de grands soins des alligators verts, des hippopotames, des chimpanzés, des chats, des rats, des éléphants, mon Dieu, mon maître, mais je ne peux pas voir de licorne.
Noé regarda dans la pluie qui tombait et vit la licorne se cachant. Il se jouait des tours, il se taquinait pendant que la pluie tombait.
Oh, c'était stupide licorne, on vit de grands oies, des alligators verts, des hippopotames, des chimpanzés.
Noé cria en fermant la porte que la pluie tombait, tu ne pouvais plus attendre
la vieille licorne.
L'arche commence à voguer et se heurtait aux vagues. Les licornes regardaient en haut, ils commencèrent à pleurer. Le courant de l'eau les emporta au loin. Et c'est pourquoi vous n'avez vu de licorne depuis ce jour.
Mais vous verrez de grands oies, des alligators verts, des hippopotames, des chimpanzés, des chats, des rats, des éléphants, aussi sûr que vous êtes nés, mais jamais vous ne verrez de licorne.
Nous sommes donc sur les caractéristiques fabuleuses de toutes ces créatures, dont Thierry, nous voilà à la recherche de monstres épouvantables et autres serpents de mer. Est-ce que la science et la cryptozoologie peuvent en parler ?
Eh oui, Siona, car la cryptozoologie est une tentative pour étudier des animaux inconnus dont parlent les légendes. Alors, il y a deux espèces phares en cryptozoologie, ce sont le monstre du Loch Ness et l'homme des neiges. On part d'une légende pour essayer de découvrir ensuite si les témoignages peuvent permettre d'avancer vers des traces qui vont démontrer l'existence supposée de ces êtres fabuleux. En cela, il y a donc une recherche. Mais ce n'est pas une recherche scientifique au sens strict du terme. Il s'agit plus d'un mécanisme d'enquête ressemblant à l'enquête policière qui va partir le plus souvent de petits faits, de petits éléments qui sont interprétés ou réinterprétable, et c'est en cela que c'est pas scientifique, car il manque à la dimension de la cryptozoologie cette capacité de se confronter à des faits qui peuvent être repris par d'autres auteurs et qui peuvent être évidemment analysés. Les animaux fabuleux, en fait, sont des animaux qui sont décrits par des légendes. Et donc, comme il faut commencer par ces légendes, on s'aperçoit souvent que ces êtres fabuleux sont repérables à la combinaison de caractères existants. Le plus souvent, il s'agit d'éléments complètement composites, comme par exemple le Minotaure, il a une tête de taureau sur un corps humain. Et donc, si la plupart de ces monstres ignorés présentent des caractéristiques d'animaux assemblés, d'assemblages, d'animaux différents, d'animaux connus, c'est parce qu'ils sont souvent issus de la culture populaire et d'une longue tradition orale.
Mais en fait, comment expliquer la fabrication de ces animaux mythiques ?
Alors, ces animaux fabuleux se rapportent à des animaux existants parce qu'on les a additionnés. On peut parfois conférer comme ça des caractères extraordinaires à des animaux réels, parce que la nature, c'est quelque chose de varié et de complexe. Par exemple, on peut dire que les serpents piquaient, alors qu'en fait ils mordent, que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux, alors qu'évidemment une chauve-souris est incapable de ce genre de choses et sait parfaitement éviter ça. On peut même dire que des loups deviennent garous, ou que la belette attaque un lièvre, alors qu'elle elle pèse à peine 100 grammes et un lièvre facilement 5 à 6 kilos. Mais il faut reconnaître qu'il y a parfois des caractéristiques qui sont tout à fait extraordinaires. Prenez par exemple les chauves-souris vampires, qui ne vivent qu'en Amérique. Eh bien, elles peuvent prélever du sang, elles ont toutes les caractéristiques d'animaux qui sont tout à fait étonnants, et pourtant, la seule chose dont on devrait avoir peur avec ces chauves-souris, c'est la transmission de virus, alors que les virus sont bien plus dangereux que les chauves-souris, d'ailleurs, elles-mêmes.
Tout cela montre que la nature a un côté bien effrayant.
C'est justement parce que la nature a ce côté effrayant qu'on en rajoute encore, parce qu'on ne la maîtrise pas. Et donc, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Il y a beaucoup moins de requins mangeurs d'hommes qu'il y a de meurtres aux États-Unis. Mais on a bien plus peur des requins que d'aller voyager, visiter le Grand Canyon. Donc on voit très bien que ce n'est pas une question rationnelle. On peut prendre encore d'autres exemples comme King Kong, qui était le représentant du singe fabuleux capable de faire peur à tout le monde. Il y a eu des films faits pour faire peur. Ou encore Moby Dick. Moby Dick, cette baleine qui est extraordinairement dangereuse. Alors que maintenant qu'on connaît le chant des baleines, on sait que ce sont des animaux tout à fait inoffensifs. Ça veut dire qu'on leur confère des caractéristiques de taille ou de force qu'ils n'ont pas. Par exemple, les araignées géantes. Alors que pourtant, les animaux les plus dangereux, ce sont plutôt des tout petits animaux comme les virus. Et si on confère des caractéristiques effrayantes à ces animaux peu communs, eh bien cela peut parfaitement justifier qu'une contrée lointaine, encore inexplorée, puisse recéler ainsi des monstres exotiques.
Et il y a eu des animaux marins très étranges, qui ne trouvaient pas leurs représentants d'ailleurs, et qui ont participé à élaborer tous ces mythes.
Alors c'est vrai que très souvent, la mer a constitué l'élément inexploré par excellence, à cause de son immensité. Mais il y a aussi eu des continents étranges, des continents qu'on ne connaissait pas. Tout ce qui troublait en quelque sorte la familiarité, notamment du Moyen-Âge ou la familiarité du XIXe siècle. On peut prendre comme exemple la rétine de Steller. Alors la rétine de Steller, qui, bien qu'il y ait eu d'autres noms proposés pour lui donner un nom, était un grand mammifère marin de l'ordre des Siréniens, c'est-à-dire le même groupe que les Lamantins ou les Dugongs. C'était un animal qui pouvait atteindre jusqu'à 9 mètres de long, d'après ce qu'on en sait, et qui vivait dans les eaux froides de l'océan Pacifique, au nord de l'océan Pacifique. Elle a été découverte en 1741, mais elle a disparu quelques années plus tard, parce qu'elle a été surtout chassée pour sa chair et son huile. Donc l'espèce s'est éteinte à la fin du XVIIIe siècle. La rétine de Steller était donc un animal tout à fait fabuleux.
D'autre part, on voit aussi que la découverte d'ossements comme les fossiles étaye l'existence de monstres anciens, comme des dinosaures.
Oui. Alors c'est aussi un point important parce qu'en effet, les monstres anciens ont laissé des traces qui sont des fossiles. Et ces fossiles qui sont les plus importants, ce sont ceux des dinosaures qui ont été des animaux absolument gigantesques sur la planète. Il y a eu aussi des mammifères gigantesques, mais les dinosaures sont connus pour leur taille. Or, ils ont tous disparu au Crétacé. Donc comprendre que ce soit ces animaux-là qui aient donné dans l'imaginaire collectif une relation avec des animaux, c'est quand même une hypothèse assez faible. On aurait trouvé des ossements de dinosaures et on aurait dit « oh là là, voilà des grands monstres ». C'est discutable parce que ces ossements de dinosaures étaient connus depuis très longtemps dans pas mal de pays et on les a souvent baptisés « os de dragon » ou encore on a fait de ces os des bouillies. On n'a jamais vraiment compris que c'était des espèces grandes. Donc c'est pas tout à fait logique. N'empêche que même s'il est rare de trouver ces fossiles à l'air libre et s'ils sont souvent méconnaissables pour quelqu'un qui ne connaît pas les fossiles. C'est souvent très difficile d'en trouver un. Il n'empêche qu'on peut quand même en découvrir et que, pourquoi pas, on peut penser que certaines espèces aient pu être un peu identifiées. Alors, il y a des cas attestés comme ça. Par exemple, des ossements qui ont été découverts à Wucheng et qui sont attribués à un dragon par un historien chinois qui s'appelle Chang Ku. Tout ça, ça s'est passé vers 300 ans avant Jésus-Christ. De la même manière, au Moyen-Âge, il y a des fossiles du Jurassique qui ont été découverts et décrits, notamment des pieds de sauropodes qui ont été découverts dans la région bordelaise, par exemple. Et puis, il y a d'autres grands crocodiles, d'autres grands reptiles, comme les crocodiles, qui ont contribué significativement à l'universalité des légendes de ces grands reptiles qui pouvaient être présents un peu partout.
On dit souvent que les découvertes récentes, comme celle du calamar, par exemple, le calamar géant, étaient l'hypothèse de l'existence d'animaux inconnus.
Alors oui et non, parce que c'est vrai que le calmar géant a fait l'œuvre de nombreuses légendes maritimes que les pêcheurs ont souvent décrites, des pieuvres géantes, et qu'on retrouve ça jusqu'à la fin du 19e siècle. On se rappelle de la pieuvre géante de Jules Verne, par exemple, et qu'effectivement, tous ces animaux paraissent être fabuleux. Mais retenez bien quelque chose par rapport aux autres animaux fabuleux. Les calmars géants, ils n'ont comme caractéristique que le fait d'être géants. C'est-à-dire que ce sont bien des animaux qui existent et dont on a représenté l'animal uniquement sous une forme grossie. D'ailleurs, même le calmar le plus géant qu'on ait découvert reste tout petit, et la pieuvre géante également reste toute petite par rapport à la pieuvre de Jules Verne. Ce sont des animaux qui sont ridiculement petits. Le calmar géant peut atteindre 7 mètres de long, ce qui est déjà pas mal, mais en fait ce sont ses tentacules les plus longues. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on peut se baser sur ces éléments-là, parce qu'il y a des contrées inexplorées qui sont exotiques, il est plus difficile de comprendre des monstres sans l'explication scientifique. Avec les calmars géants, on a une explication scientifique. Voilà des animaux identifiés physiologiquement, qui sont connus, et donc on peut fabriquer ça. Prenez par exemple le cas de morphologie discutable. Eh bien, dans les cavernes du Magdalénien, les humains ont dessiné des animaux comme les mammouths. Et ils étaient difficilement compréhensibles. Un curé du XVIIIe siècle qui rentrait dans une caverne et qui voyait des mammouths ne pouvait voir là que des animaux tout à fait fabuleux. Et bien pourtant, ils n'ont pas fait l'objet de mythes ou de monstres absolus. On n'a jamais dit qu'il y avait un grand mammouth qui se baladait dans nos forêts. Et pourtant, ils étaient représentés. On voit bien que la représentation de l'animal, tant qu'elle reste zoologiquement non discutable, ne pose pas de problème.
Oui, comme pour Jules Verne, qui décrivait son monstre des profondeurs, on a découvert le calmar géant. Donc c'est vrai que d'anciennes observations, apparemment peu crédibles, peuvent finir par aboutir à de grandes découvertes.
Alors oui et non, parce que le calmar géant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait une espèce qui n'est juste que géant. Alors c'est déjà beaucoup, bien sûr, mais même son gigantisme est faible par rapport à ce que les légendes accréditaient. Et puis c'est une espèce qui était connue largement depuis le 19e siècle, c'est-à-dire qu'on n'avait pas réussi à en capturer un, à avoir un individu qui serait l'individu fondamental, celui qui permet d'identifier une espèce donnée, mais ce qu'on appelle en zoologie l'holotype, mais sans avoir d'holotype, on avait des descriptions et on avait déjà obtenu de nombreuses observations jusqu'au 20e siècle. D'ailleurs, on connaissait les batailles qui existaient entre les cachalots et ces calmars, puisque les cachalots avaient les traces de ces calmars géants sur eux. On comptabilise la découverte de plus de 600 individus calmars géants depuis 2004. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à se pencher dessus, on n'a pas eu de problème pour découvrir beaucoup d'individus.
Effectivement, ça en fait pas mal.
Ça correspond à une population d'une espèce donnée. Il ne peut pas y avoir une population d'espèces qui soit très inférieure à 200 ou 300 individus, sinon l'espèce est quasiment disparue. Les calmars géants, ce sont des grands céphalopodes qui appartiennent donc à l'ordre des décapodes. Mais le terme calmar géant ne désigne pas une seule espèce de calmar, il y en a plusieurs espèces qui toutes appartiennent à un genre qu'on appelle le genre Architeutus. Ce sont des scientifiques qu'on appelle des malacologues, ceux qui sont des spécialistes de l'étude des mollusques qui travaillent dans l'océan Atlantique et Pacifique. On a découvert 3-4 espèces dont on est certain. La moyenne est d'environ 4 à 6 mètres. On est très loin de la pieuvre géante. Et encore, on prend la taille post-mortem de femelles adultes et on prend la taille de leur taille totale, c'est-à-dire avec les tentacules. Alors évidemment, l'animal est beaucoup plus petit puisque les tentacules représentent environ les 2/3 de la taille de l'animal. Les plus grands ont atteint 13 mètres à cause de leurs deux grands tentacules.
C'est impressionnant.
C'est déjà très grand, mais c'est beaucoup plus petit que ce que les marins décrivaient. Avec une tentacule de 13 mètres, un mollusque géant ne peut pas attraper un homme, l'envoyer à l'eau. 10 mètres pour les mâles en plus, donc on est ici dans une taille totale qui est quand même relativement petite. Alors, c'est pas faux non plus que le calmar géant est une espèce extraordinaire, mais il provient beaucoup plus de la zoologie que de la cryptozoologie. C'est Liriel qui nous interprétait Leverage. C'est un groupe de métal allemand qui va chercher son répertoire au plus profond du Moyen-Âge.
Oui, métal folk un peu original et très joli. Nous voilà sur 89.4, une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans dieu et sans publicité. Dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit, Science en Liberté, tous les seconds lundis de chaque mois. Revenons à notre petit sujet sur la cryptozoologie, qui est à la recherche de formes et de vies inconnues. Comment se passe une recherche cryptozoologique et qui en est en fait le fondateur?
Alors, en ce qui concerne le fondateur, Siona, on l'a vu que c'était Bernard Evelsmann, qui est un zoologue de nationalité belge, qui est fondateur de la cryptozoologie. Il a évidemment travaillé beaucoup sur ce sujet et il a qualifié la cryptozoologie et sa recherche de recherche de formes animales encore inconnues. C'est un docteur en zoologie de l'Université libre de Bruxelles qui a débuté sa carrière par des travaux assez classiques. Il a travaillé sur la dentition de l'oryctérope, par exemple, qui est ce qu'on appelle le cochon de terre en Afrique du Sud, et sur des siréniens. Donc, ce sont des mammifères un petit peu particuliers. Il a surtout écrit son livre qui s'appelle « Sur la piste des bêtes ignorées ». Et c'est un ouvrage qui a bénéficié d'une immense popularité, qui a été probablement diffusé à plus d'1 million d'exemplaires. Il y soutient que des grands hominidés, des grands singes, qui auraient vécu, auraient même survécu, et coexisteraient avec l'homme un peu partout sur la planète. Et puis il a aussi publié plusieurs livres consacrés aux monstres marins. À la fin des années 60, notre ami Bernard Evelsmans a eu une affaire qui a secoué toute la presse à sensation. Il était déjà habitué un petit peu de ses articles un peu particuliers. Mais il a eu l'occasion d'examiner le cadavre congelé d'un hominidé apparemment velu qui était conservé dans la glace. Donc absolument difficile à atteindre à travers cette couche de glace et qui était exposé. C'était le fameux homme des glaces du Minnesota. Et il a été convaincu de l'authenticité de cet individu qu'il a identifié comme un homme sauvage proche du Néandertal et pour laquelle il a même créé une espèce qui s'appelle Homo pongoides. Il lui a consacré tout un livre qui s'appelle « L'homme néandertal est toujours vivant ». Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un faux.
Ah oui.
Le gars qui avait fait ça a compris que l'homme congelé était en fait un canular qui avait été organisé par un décorateur d'Hollywood qui trimballait un faux individu, évidemment caché dans la glace puisque c'était un mannequin de cire qui était présent. Ce qu'on constate, c'est que la méthode de recherche de Welsmann, la méthode de recherche de la cryptozoologie est discutable puisqu'elle se base en effet sur ce qu'il croit être des preuves, mais il faut d'abord être terriblement motivé par ce type de recherche, par la recherche de choses extraordinaires, et une fois qu'on les a sous les yeux, il accepte finalement de n'en faire que la description. Et donc la description qu'il en a faite est une description qui a été faite à travers les éléments qui lui permettaient à lui d'affirmer, regardez comme ça existe bien. C'est des témoignages ou des descriptions qui sont opérées sans vérification, il n'y a pas eu de prélèvement de tissu, il n'y a rien eu de fait, ni esprit critique. En fait, on voit bien qu'on a affaire à un passionné, hein, très sympathique, qui veut découvrir quelque chose. Et comme il veut découvrir quelque chose, eh bien, il va limiter sa méthode à de longues descriptions, parce que c'est souvent très long. Hein, les descriptions de cryptozoologie, c'est plusieurs pages et plusieurs pages et plusieurs pages pour parfois une seule observation, hein, une trace.
Ça, c'est de l'énergie.
Voilà, une trace d'homme dans la neige. Des fois, ça prend 34 pages pour une publication. Donc, c'est assez exceptionnel. Et donc, ça prend des allures scientifiques, mais il s'agit évidemment d'autre chose.
La cryptozoologie, malgré tout, étudie toutes les espèces inconnues.
Alors, pas toutes les espèces inconnues, justement. La cryptozoologie se concentre uniquement sur les monstres mythiques, ou voire sur les légendes urbaines.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a deux espèces phares en cryptozoologie, qui sont le monstre du Loch Ness et l'homme des neiges. Il y a quelques autres espèces annexes, serpents de mer, etc., qui peuvent s'y rapporter, mais à chaque fois, il faut qu'il s'agisse d'animaux qui fassent partie de toute une série de légendes, de tout un ensemble de choses particuliers. La petite araignée non découverte ou le scarabée inconnu, ça n'intéresse pas la cryptozoologie.
Ce n'est pas exceptionnel. Alors revenons sur le principe des recherches en cryptozoologie. Les chercheurs de cette discipline affirment qu'ils mènent de vraies recherches selon une méthodologie scientifique, avec une méthodologie précise. Donc, quelle est la validité scientifique de leurs études ?
Alors, la cryptozoologie va remplacer justement la recherche scientifique habituelle par une analyse de description ou pour une analyse de témoignage. Ça reste donc un élément extraordinairement subjectif puisqu'on va répertorier des enregistrements, des cris, des traces, voire le plus souvent des témoignages, et qu'à partir de ces témoignages, on fait en quelque sorte un portrait robot. Et ce portrait robot est donné après comme quelque chose de réel. On est donc plus sur une démarche de type enquête policière que sur une démarche de recherche scientifique. En plus, évidemment, ce type de recherche n'est jamais expérimental, à moins de la confronter à de vrais scientifiques qui parfois s'y associent et peuvent eux mener des recherches expérimentales sur les données données par la cryptozoologie.
Oui, mais il n'empêche que leur description repose sur des indices matériels, des traces qui sont décrites par les cryptozoologues.
Oui, il existe des indices matériels. Mais les indices matériels, il est toujours difficile de savoir comment les interpréter. En outre, ces indices matériels n'existent que parce qu'il y a des gens qui font une enquête dessus. On voit une trace mal formée dans la neige, tout de suite on dit « tiens, ça peut être la trace de l'abominable homme des neiges ». Et on cherche à savoir si on peut reconnaître une trace d'homme ou une trace d'ours. Il est évident que dans la neige, une trace, ça peut complètement disparaître avec la fonte des neiges. Et que c'est pas comme ça qu'on élaborerait la science. On partirait pas d'une idée préconçue « tiens, il s'agit d'un homme des neiges » ou peut-être pas. On partirait d'un principe très différent. Et surtout, on aurait déjà suivi l'animal, on saurait d'où il est, on essaierait d'analyser ses crottes, enfin, toutes les laissées qu'il peut laisser, qui sont des éléments organiques. On va voir qu'en cryptozoologie, ce qui compte le plus, c'est l'importance des témoignages. Alors, il peut y avoir des traces ou des photos, mais ce sont toujours des témoignages qui les apportent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit « tiens, j'ai pris une photo, tiens, j'ai pris une photo de trace, tiens, j'ai enregistré un cri ». Donc, ce témoignage est évidemment l'élément le plus important. Alors que on sait tous, que ce soit d'un point de vue juridique ou d'un point de vue scientifique, le témoignage est évidemment très, très discutable. Prenons simplement le témoignage qu'on peut faire tous les matins. Tous les matins, on peut regarder le soleil se lever. Voilà un témoignage. Ah, Je pourrais dire à quelqu'un, le soleil se lève. Mais en fait, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Le soleil ne se lève pas, il ne se couche jamais. Mm-hmm. C'est la Terre qui tourne autour. Ça, c'est scientifique. Mm-hmm. Donc, le témoignage lui-même nécessite évidemment d'être pris non pas comme une source de fait, mais comme une donnée qu'il va falloir analyser, interpréter. En science, on va donc débusquer la réalité derrière le fait qu'elle se cache. Et il faut très souvent ôter l'extraordinaire, la magie, pour essayer de trouver la chose ordinaire qui s'y passe. Hein, ce n'est pas la chaleur du soleil qui va compter immédiatement si on observe la manière dont ça se passe. On ne va pas pouvoir dire « la preuve qu'il tourne, c'est qu'il chauffe ». Non, ce qu'il va falloir dire, c'est effectivement comprendre derrière le soleil qu'il s'agit d'une étoile comme les autres, ma foi très banale au demeurant par rapport à d'autres étoiles. Donc, les indices matériels, qui sont principalement des traces, hein, même si évidemment on a des hypothèses, par exemple qu'un singe peut vivre en montagne, bon, cette hypothèse est assez peu crédible. Alors pourquoi la retenir a priori sous le seul affouet que quelqu'un a dit « Oh ben j'ai vu quelque chose de bizarre dans la montagne » alors qu'on sait bien qu'un ours, c'est tout à fait extraordinaire déjà de rencontrer des ours, hein, même qui sont très communs, alors rencontrer un singe. Et il faut voir que très souvent il y a bien plus de témoignages de gens qui ont vu des grands singes que de gens qui ont vu des ours. Ce qui est quand même tout à fait étonnant. On a même plus de traces de Yeti que de traces d'ours.
Ah.
Voilà. Or, la trace, c'est un mauvais indice, hein, parce qu'une trace, ça fond quand c'est dans la neige, quand c'est dans la vase. Selon que la température, la chaleur, ça peut se rétracter, s'agrandir. Ça peut prendre toutes sortes de choses. On sait très bien que les traces sont les choses les plus imprécises et en même temps les plus faciles à imiter.
Mais en même temps, ça donne une partie des indices. Mais effectivement, les autres indices matériels, il y a par exemple les restes organiques comme des poils, de la chair, il y a ces éléments-là.
Alors ces indices-là sont très intéressants parce que du coup, on peut leur mener sur ces indices des véritables tests scientifiques.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que la plupart du temps, ils ont fait illusion jusque dans les années 90, tant que la génétique n'était pas très au point. Mais maintenant... Ça résiste très mal à l'examen. Alors, soit on a des poils qui n'ont pas d'ADN, soit on a des éléments organiques, mais qui, comme par hasard, n'ont absolument aucun ADN. Ils ont été bouillis, chauffés. Enfin, on retrouve des choses assez étonnantes, hein, des magmas de chair. Et puis, parfois, on a des poils, et dès qu'on peut les analyser génétiquement, comme les poils dits de Sasquatch pour les États-Unis, bah, chaque fois qu'on les a examinés, c'était des poils d'ours. Parfois, il y a eu des poils de chèvre, et puis parfois, des poils de singe, mais qui, génétiquement, étaient faciles à identifier. C'est des poils de gorille ou des poils de orang-outan qui provenaient, évidemment, d'animaux connus dans les zoos ou dans les muséums. On a même trouvé parfois des poils de petits singes ou des poils d'humains qui étaient identifiés comme des poils de Sasquatch.
Carrément, donc en fait là, l'ADN donne.
Ben voilà, quand on éléments. Imagine un type qui vous dit j'ai vu un énorme singe se promener dans la nature et puis qu'il vous amène des poils de capucin, on peut que se mettre en doute évidemment son témoignage. Le plus souvent, le mythe de l'espèce inconnue est attribué en fait à une absence d'indices. Car s'il y a des indices qu'on peut identifier, évidemment, ça fait tout en l'air. C'est pour ça que le plus souvent, ce sont des traces que les gars ont moulées. Rarement, il y a eu des prélèvements faits sur les traces, dans une trace. Normalement d'ours, par exemple, il y a des poils qui restent, des choses dans lesquelles on pourrait identifier de l'ADN. Et évidemment, les preuves par l'absence ne sont pas des preuves recevables d'un point de vue biologique.
Il y a aussi les observations.
Alors, c'est même le cas le plus fréquent. Mais les observations, il faut bien comprendre à quel point elles sont discutables. Par exemple, il y a une personne qui a photographié un extraterrestre qui aurait fait une randonnée à Budapest. Ça a été photographié le 25 mars 2015.
Oh, ça prête à sourire.
Et donc, c'est assez étonnant. Le rapport a été envoyé en cryptozoologie. Le gars ne mentionne pas son nom. Il dit juste qu'il marchait tranquillement dans un bois. Quand soudain, tiens, il a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre et qu'il y avait un extraterrestre qui faisait sa randonnée. On a même une femme aussi qui a couché comme ça avec un extraterrestre. Enfin bref, c'est assez important.
Il y a un peu de délire quand même. Le nombre de canulars est important sur ce thème.
Oui, par exemple, dans le cas de l'homme congelé sur lequel Heuvelmans s'était justement fondé, a montré à quel point la plus grande part de la cryptozoologie reste une fraude. Alors cet homme du Minnesota, c'était un hominidé prisonnier des glaces, exposé dans les foires entre 67 et 69. Et pour les visiteurs ont toujours pu observer cet homme congelé. Donc ça donnait une espèce d'aura autour de cette découverte fabuleuse. Bon, pourquoi est-ce qu'il était observé que dans les foires pas d'un point de vue scientifique, bah, c'est tout simplement parce que c'était un canular. On a pu vérifier que le gars qui exposait ça, qui s'appelle Frank Hansen, avait acheté un mannequin qu'il présentait d'abord aux visiteurs de son stand comme étant la représentation, puis petit à petit, il l'a mis comme étant un individu authentique. Évidemment, il a raconté tout un récit mystérieux, qu'il avait découvert ça. Bon, tout ça, c'était pas du tout plausible. Et en fait, il avait créé plus de 3 Iceman en latex en 1967, bon, ce qui laisse supposer qu'il n'avait pas d'ailleurs un seul mannequin, mais plusieurs, et qu'il les montrait de manière... Dans plusieurs endroits en même temps.
Bon. Il y a aussi quand même le Yéti, non, n'est-ce pas? On a trouvé des abominables traces.
Oui, de l'abominable homme des neiges. Alors, c'est en 1925, l'explorateur Tombazzi, ainsi d'ailleurs qu'un autre observateur, John Hunt, rapporte avoir observé une empreinte de Yéti sur un glacier, c'est-à-dire une empreinte qui correspondait à cette légende de gens qui disaient avoir déjà vu des animaux cryptologiques. Hein. Et cet individu, évidemment, restait toujours suspect puisqu'on n'a jamais trouvé le moindre cadavre, on n'a jamais pu identifier le moindre individu vivant. En outre, il faut bien penser qu'une population de Yéti pouvant se maintenir au-dessous de 200 à 500 individus pourrait passer inaperçue, mais que c'est quand même très très peu probable dans la mesure où on n'a même pas d'éléments prétendant ça. On a trouvé par exemple des poils de Yéti et on verra qu'en fait ils proviennent d'une simple chèvre de l'Himalaya.
Et autrement, il y a le Bigfoot ou
le Sasquatch, oui, aux États-Unis. On a ainsi beaucoup d'espèces comme ça qui ont été présentées. Il y a le fameux film, bien sûr, Bigfoot, qui a été encore un trucage. On sait maintenant comment il a été truqué. Ça a été analysé. Comme toujours en cryptozoologie, ce sont des images qui sont floues, pixelisées et souvent costumées, évidemment, parce que c'est plus facile d'avoir un singe costumé qu'un vrai singe.
Tiens, Dupont, je me demandais, tu sais où c'est le Connemara? C'est en Irlande. Et le Loch Ness, c'est en Écosse. C'est complètement incohérent comme début de sketch.
Oui!
Mais ça reste une très belle chanson.
Oui!
Tiens, Dupont, tu sais pourquoi nous sommes ici?
Pour pêcher.
Je dirais même plus, pour pêcher Nessie. Tu connais Nessie?
Bien sûr que je connais Nessie. 3 ballons d'or, quand même.
Mais enfin, Dupont, dis pas de bêtises! 4 ballons d'or.
Oh, pardon.
Et puis, je ne te parle pas du footballeur, je te parle de Nessie, le monstre du Loch Ness.
Ah oui!
Je me disais aussi, venir en Écosse pour pêcher un footballeur, c'est bizarre.
Dis donc, Dupont.
Oui.
En général, le monstre, il apparaît vers quelle heure?
En général, il apparaît vers 4 ou 5 whisky. Hein?
Je peux te garantir qu'avec moi, il apparaîtra bien plus vite. Je suis un excellent pêcheur.
Ah bon, et tu as mis quoi comme un pas?
Un bâtonnet de crabe coraya.
Mais enfin, Dupont, tu crois vraiment qu'on va choper un monstre si gros avec un bâtonnet de crabe?
Bon, attention, Dupont, je ne suis pas fou, hein? J'ai mis de la mayonnaise.
Ça mord!
Non, justement, vaut mieux pas!
Mais non, Dupont, regarde! Ça mord, regarde!
Oui, chaud. Ça mord! Oh, oula, oula, attention, c'est un gros Dupont!
Oula, Dupont.
Oh, c'est un gros Dupont! Dupont. Tiens-moi, tiens-moi!
Oh, Dupont.
Ça tient,
allez, Dupont!
Dupont.
Allez, gros! Allez, Dupont!
Allez, oh, Dupont!
Allez, ça, c'est un gros Dupont!
Tu crois que c'est le monstre du Loch Ness? Bon, en tout cas, ce n'est pas une truite.
Bonjour, nous sommes Dupont et Dupont. Nous sommes ici afin de vous capturer.
Ça veut dire qu'il est d'accord?
Je pense pas, non.
Une petite photo, sinon
petite...
D'accord, très enchanté. Alors, Dupont, prends la photo.
La photo.
Alors, ne bougez surtout pas.
Arrêtez de bouger.
Non, parce que si vous bougez comme ça,
si vous bougez,
la photo va être floue.
Oui.
Voilà. Souriez. Dites fromage.
C'est un anglais, Dupont.
Dites cheese. Voilà.
Cheese, très bien. Voilà.
Merci.
Clic-clac, c'est dans la boîte.
Merci.
Bah, tu vois, Dupont, on aura appris quelque chose aujourd'hui.
Ah bon, laquelle?
Le monstre du Loch Ness. Il aime la mayonnaise.
Voilà un sketch de Steven et Christopher.
Alors, eux, ils ont découvert le monstre, mais c'est un sketch. Pourtant, il y a des observations qui ont vraiment permis la découverte d'espèces extraordinaires.
Oui, mais cette observation est le plus souvent basée sur l'obtention de tout un ensemble d'éléments, d'un faisceau de présomptions et surtout sur l'obtention d'un spécimen, généralement entier. Par exemple, dans le cas de l'ornithorynque ou encore dans le cas du sélacanthe ou plus récemment, quand on a découvert l'antilope sans barre, par exemple, il n'y a pas qu'un faisceau de présomptions, il y a le fait que ce sont des espèces identifiables, qu'on peut reconnaître, et y compris dans les descriptions. Le seul cas où il y a vraiment des observations légendaires qui ont donné lieu à des découvertes, c'est celle éventuellement du calmar géant au début du XXe siècle. On peut reprendre le cas de l'ours de l'Atlas, par exemple, qui a été filmé en mars 2016, prétendument. Alors, la présence d'une espèce d'ours en Afrique du Nord appelée ours de l'Atlas a été rapportée depuis la plus haute antiquité jusqu'au XIXe siècle. Bernard Wellmans, le fameux père de la cryptozoologie, lui a réservé plus de la moitié d'un livre qui s'appelait les ours insolites d'Afrique. Mais bien que cet ours semble éteint depuis au moins un siècle, il aurait été refilmé, c'est un bruit qui a été répandu, qu'il aurait été filmé en Algérie. dans la réalité, les caractéristiques du film permettent tout à fait d'écarter l'hypothèse qu'il s'agit d'un vrai ours. On voit très bien sur le film qu'il ne s'agirait au mieux que d'une hyène.
En cryptozoologie, il y a beaucoup d'indices.
Alors on peut même dire que c'est ça qui caractérise la cryptozoologie, c'est la multiplicité des photos et des témoignages. Il y a souvent bien plus de photos et de témoignages d'espèces inconnues, d'espèces rares, et pourtant ce sont des animaux mystérieux et probablement très très rares, et pourtant il y a plein de photos. Par exemple, aux États-Unis, le nombre de témoignages de gens qui ont vu des Sasquatch est 2/3 fois plus important que le nombre de gens qui ont vu des ours. Bon, ce qui est pourtant, l'ours est une espèce pourtant très commune aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. En plus, les caractéristiques de ces observations sont toujours les mêmes. On a un observateur qui se promène et par hasard, par surprise, il observe ça. C'est jamais un zoologue compétent, c'est toujours quelqu'un qui, par contre, a son appareil photo ou sa caméra sur lui. Et il ne s'agit pas là de dévaloriser des vrais observateurs zoologiques, mais quand même, c'est quand même tout à fait étonnant. Bon, moi, par exemple, on a eu des observateurs comme, à propos de notre vison français, on a un chasseur qui nous a dit « Oh là là, j'ai découvert un animal qui avait du blanc sous la lèvre, ça, c'est le vison d'Europe, il est sûrement très très rare ». En fait, quand on y est allé, le chasseur nous a présenté le cadavre d'une fouine, qui est une des espèces de carnivores assez communes en France.
C'est la méconnaissance aussi.
Tout à fait, une méconnaissance. Et puis, le fait que la personne se persuade elle-même. Par exemple, on a eu le cas de quelqu'un qui nous a dit qu'il avait des dégâts de poissons faits sur son étang et que c'était une loutre qui faisait ces dégâts-là. Mmh. Évidemment, comme c'est une espèce rare et protégée, nous y sommes allés. Or, on a pu voir qu'il n'existait que du ragondin en présence. Le gars, il avait pourtant dit que c'était une loutre. Pourquoi ? Parce que quand il a vu l'animal plonger, il est tout de suite allé voir dans un dictionnaire Homo loutre. Homo loutre, il a trouvé la description de la loutre et lui, la description qu'il nous a rapportée était non pas la description d'un ragondin, mais la description d'une loutre. Mais à aucun moment, l'observation d'une loutre n'a pu être faite. On a aussi des vidéos qui nous montrent des animaux, souvent des vidéos de très mauvaise qualité, très brèves, sans repère de taille, à des heures toujours compliquées, où on voit généralement une ombre qui est difficilement interprétable. Les photos, c'est les mêmes caractéristiques que tout ça.
Et autrement, il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui a trait au Loch Ness.
Alors oui, le monstre du Loch Ness est une des espèces cryptozoologiques les plus identifiées, les plus connues.
Avec des vidéos, avec plein d'indices.
Des indices, des photos, des observations. Le premier témoignage oculaire du monstre du Loch Ness remonterait à 565 après Jésus-Christ. Ça serait un moine irlandais qui a été canonisé pour avoir converti les Pictes au christianisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est ce témoignage-là. La bête picte, en fait, telle qu'elle est racontée, à la surgie du lac. Alors, il dit, avait de grands rugissements et la gueule ouverte. Mais notre ami Saint-Colomban a réussi à la faire fuir en faisant le signe de croix.
Ah,
et c'est ça qui a converti tous les Pictes.
Tout à fait.
Donc, on voit bien que l'animal fabuleux a ici un rôle sociologique, un rôle pour imposer encore une domination. Et évidemment, qu'une bête existe. Alors, dans la mythologie des Pictes, dans la mythologie des gens du Nord, il y a toujours eu des grands monstres marins. Mais on se rappelle que c'est lié à l'inconnu de la mer. C'est plutôt une figuration symbolique de tous les dangers de la mer qu'autre chose. Il faut voir qu'à partir de là, il n'y a pas beaucoup d'observations. Il faut attendre 1933 pour qu'on observe la première fois le monstre. Alors c'est lié au fait qu'il y ait une route qui a été construite au bord du lac. Et évidemment, ça facilitait les observations. Et surtout, ces observations se sont multipliées. Le Loch Ness, c'est un lac qui mesure une quarantaine de kilomètres de long sur 2 kilomètres de large à peu près, avec des fonds très profonds. C'est un lac glaciaire, donc de plus de 100 mètres. Évidemment, les descriptions donnent tous l'apparence d'un plésiosaure, d'un grand reptile marin, et donc c'est l'hypothèse la plus répandue dans le grand public. Mais il y a aussi des ondulations verticales, voire des poils qui sont signalés. Par exemple, on a observé en 1933 des traces, et en fait, on s'est rendu compte que les traces observées, c'était avec un pied d'hippopotame qui servait de cendrier. Donc,
c'est vraiment
après
incroyable.
70 ans, on peut dire qu'on a de nombreuses photos, de nombreuses traces, mais il n'y a aucune qui est convaincante. À chaque fois, ce sont des très mauvaises qualités. Et l'album de photos de Nessie est très très bien fourni, mais il n'est absolument pas convaincant. Il faut se rappeler que la première photo de Nessie, la plus célèbre, a été prise le 21 avril 1934 par un chirurgien qui s'appelait Kenneth Robert Wilson, et qu'en réalité, il s'agit là d'un canular.
Pourtant, c'est une photo qui est bien connue, où on voit l'animal sortir en noir et blanc.
On a bien l'impression qu'il s'agit là d'un véritable plésiosaure. C'est une photo qui était faite toute bêtement, puisqu'il s'agit d'un carton découpé qui a été fixé sur un sous-marin d'enfant. La supercherie a été montée, elle a été organisée avec deux personnes, ce qui fait que finalement, la supercherie n'a pas pu rester très très longtemps, bien que c'était la photo de ce chirurgien réputé qui était censé apporter la caution morale à cette blague. Mais qui était au départ une blague de potache. Alors depuis lors, il y a eu des tas de trucages qui ont été avérés, des tas de photos qui ont été faites, y compris des photos faites sur des plaques de verre, par exemple.
Il y a même eu une expédition scientifique qui a découvert des indices avec un sonogramme et qui a travaillé scientifiquement et même publié.
C'est là où on voit que l'une des critiques essentielles qu'on fait à la science, c'est de ne pas s'intéresser à cryptozoologie ou aux monstres marins. Là, les éléments qui ont été donnés sur le monstre de Loch Ness, ce sont des blagues de potache, voire des faux, des canulars qui ont été parfaitement identifiés. Et pourtant, il y a eu des scientifiques pour explorer le lac. Alors, il y a eu énormément d'expéditions scientifiques, dont la dernière qui a travaillé à complètement passer au scanner les fonds du lac à 25 km/h et qu'on a travaillé à tout ça. Et en fait, on a découvert que tous les ultrasons ne renvoyaient jamais rien. Et pourtant, un Anglais, le 9 août 72, a réussi à laisser entendre qu'une des photos montrait la nageoire typique losange d'un plésiosaure. Alors c'est une photo qui a été célèbre parce qu'il a évidemment republié ça tout de suite dans Nature en 75, dans un grand organisme scientifique, et il a proposé du coup, puisqu'il en avait une preuve, de nommer scientifiquement l'animal. Donc Peter Scott a fait cette publication, il l'a donc nommé Necessitera rhombopteryx, littéralement le grand animal du Loch Ness, et en fait les auteurs ont parlé de la photo en disant qu'il s'agissait d'une nageoire qui était parfaitement identifiable. Or, quand on la regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est une photo retouchée. Et elle a même tellement été retouchée qu'en fait, on s'aperçoit très bien que la photo ne permet pas un écho identifiable. Il n'y a pas de population inconnue dans le Loch Ness. Il y a eu d'autres flottilles de bateaux équipés de sonars qui ont retravaillé sur le Loch Ness, etc. Et bien qu'on ait toutes ces expéditions qui étaient menées, bien qu'il y ait eu plus de 70 ans de recherche avec sonar, avec des éléments, et qu'on n'ait aucune preuve matérielle qu'il existe quelque chose dans le Loch Ness, eh bien ça n'a pas manqué pourtant de continuer à intéresser les foules. Alors c'est ce qui nous renvoie bien sûr au problème de la fragilité des témoignages.
Effectivement, c'est tout à fait sensible. On sait que l'humain est ce qu'il est avec une fragilité de l'indice.
Oui, on sait très bien que dans les cas d'enquête policière, les témoignages sont parfois tout à fait sujets à caution et qu'on ne peut pas envoyer des gens en prison ou à la chaise électrique sur la base d'un simple témoignage. Et pourtant, on continue à le faire. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la licorne, qui est évidemment une espèce dont personne ne peut juger aujourd'hui la réalité. Et cependant, les premières observations nous disent qu'il s'agit d'un cheval blanc, avec beaucoup d'ouvrages qui, au Moyen-Âge, ne remettaient absolument pas en cause son existence réelle. D'ailleurs, l'histoire naturelle de John Johnson, présente plus de 8 espèces de licornes différentes.
Ah, quand même. Il y a eu aussi des témoignages de personnes qui ont vu carrément la licorne.
Alors, revenons sur ces témoignages, parce que c'est évidemment l'élément le plus intéressant. L'existence réelle de la licorne, par des témoignages, c'est légion. Il y a énormément d'observateurs et même des zoologues qui l'ont décrite. Alors le premier, c'est Pline l'Ancien, qui va servir de base après à beaucoup de descriptions. Il dit que c'est une bête sauvage, monocéros, qu'elle a la tête du cheval, les cornes d'un cerf, qu'elle ressemble à un sanglier, qu'elle a un mugissement. Et toutes ces descriptions vont jusqu'à l'entrée de la licorne dans la Bible, puisque l'Ancien Testament la signale. Et puis on va la retrouver dans d'autres éléments, comme par exemple dans les textes de Martin Luther, que le fondateur de la Réforme.
Est-ce que ces témoignages ne se trompent pas en identifiant un autre animal comme la dent unique du narval, par exemple, qui a pu mettre du doute ?
C'est pas tout à fait faux, parce que la licorne est une chimère. Donc à partir d'un organe comme la corne d'un animal existant, on peut essayer de se convaincre que la licorne pouvait exister. Le narval est une petite baleine dont l'incisive gauche se développe en une forme de dent qu'on a appelée dent de licorne. Mais il n'a rien à cheval blanc, ça reste une sorte de baleine, un dauphin. On voit très vite qu'on est passé du problème de la réalité de cet animal à la vraie question. C'est-à-dire pourquoi une telle chimère a-t-elle pu voir le jour ?
Il n'est plus question de chercher finalement un animal vivant ou ayant vécu et ressemblant aux figurations médiévales.
Oui, parce que c'est une chimère et donc ça repose pas sur l'existence d'animal réellement vécu, mais là encore, d'une sorte d'assemblage d'éléments qui ressembleraient cela. En général, on nous dit aussi que le narval aurait pu être confondu avec une antilope d'Afrique, l'oryx, ou encore avec le fossile d'Elasmotherium, qui est l'ancêtre des rhinocéros. Mais on voit bien qu'à chaque fois, il s'agit de pays lointains par rapport à l'observateur lui-même. À chaque témoignage, il s'agit d'un rapport pour quelque chose en Inde, pour un occidental, ou au contraire, pour un nord-africain, ça sera en Europe du Nord. Dans des régions tout à fait inaccessibles et souvent inexplorées.
Comment, finalement, des voyageurs ont-ils pu prétendre avoir vu des licornes ?
Ah, mais il y a même plus que voir. Il y a des voyageurs qui ont dit qu'ils en avaient capturé avec la capture de la licorne qui est dans le bestiaire divin de Guillaume Leclerc en Normandie au XIIIe siècle, dans lequel il dit que c'est un animal redoutable, qu'il a une vigueur, etc., que c'est difficile pour le chasseur de la maintenir et que si on voit une jeune fille, d'un seul coup, la licorne va être gentille. Marco Polo aussi dit qu'il en a aperçu des licornes. André Tévet dit que quand il voyage en Indonésie, qu'il a découvert la licorne. Ouais. Il raconte comment est fait l'animal, mais aussi quel est son caractère. Lors d'un séjour à la Mecque, il y a un explorateur italien qui rapporte avoir vu des licornes dans un enclos. Il y a un jésuite portugais qui dit que quand il a vu les sources du Nil, on lui a raconté l'existence de licornes. Et à chaque fois, la description ressemble plus au cheval qu'au rhinocéros ou à des espèces de ce genre. On voit très bien que tout ça s'est étayé par tout un ensemble d'éléments. Mais il faut se rappeler que c'est aussi pour une fabrication marchande, car la licorne rapporte de l'argent. D'abord par les ouvrages, par le mythe qu'elle suscite, mais aussi comme médicament.
Oui, effectivement, cette fameuse corne. Alors, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, finalement, c'est une affaire publicitaire.
Oui, on peut affirmer que des scientifiques ont trouvé un fossile d'Elasmotherium. Et si ça intéresse tout le monde
Le fameux rhinocéros.
Le fameux rhinocéros ancien, un fossile. Et si c'est aussi intéressant, c'est parce qu'ils ont dit, ça y est, on a découvert l'ancêtre de la licorne sibérienne. Mmh. Voilà un moyen de faire passer une publication ordinaire pour une publication fantastique. Alors, c'est un spécimen qui date de 26 000 ans, donc on peut dire, ouais, il a coexisté avec des humains. En fait, on en est très, très loin. De la même manière, en Corée du Nord, la Corée du Nord a déclaré avoir découvert une tanière de licorne. Et ça, c'était le 26 novembre 2020. Là encore, il y a un aspect publicitaire, bien sûr, pour qu'on achète le journal qui dit ça et pour que la publicité se penche sur la Corée du Nord. Il y a une vidéo aussi qui court sur le web depuis 2008 qui montre une licorne, bien sûr très difficile à identifier au milieu des arbres en montagne. Le trucage est grossier hein, dès qu'on analyse la photo, comme toujours en cryptozoologie, mais il n'empêche que ça suffit pour qu'on focalise l'attention des humains sur une espèce fantastique, un animal qui est tout à fait remarquable et qui va intéresser les gens.
I see you in the water.
Are alive, awakened by
Et oui, carrément, Loch Ness Monster Song, une musique créée exprès pour Loch Ness par Dark Waters. Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiqués du bulbe, science en liberté. Le point de départ de tous ces mythes du Loch Ness ou de l'abominable homme des neiges, c'est donc une mystification marchande, finalement.
Eh oui, il s'agit d'abord de récits fabuleux, s'il y en a, tu as raison, dans lesquels un voyageur va se mettre en scène comme un découvreur, que ce soit à l'époque romaine, au Moyen-Âge, ou que ce soit de manière contemporaine. Cette mise en scène permet à l'individu d'obtenir une certaine aura, une certaine publicité pour lui. Et si les mythes persistent et s'ils se maintiennent, c'est bien entendu qu'il y a des raisons marchandes, toute une possibilité de vendre quelque chose. En fait, un monstre, c'est une bonne marchandise. Et la légende tient le coup, même s'il y a des dénégations, puisque de toute façon, ça va être entouré d'un doute particulier. Et l'élément particulier de la science ne sera pas suffisant pour essayer de rompre cela. Le monstre, ça fait vendre, et la confusion qui va être entraînée autour de toutes ces légendes va laisser une sorte de doute. On pourra toujours dire que c'est un animal fabuleux, qu'il est fabuleux, ou qu'on l'ignore, et on sait que la zoologie est toujours pleine de surprises. Ces espèces légendaires restent inconnues, donc le doute peut persister, et tant que des personnes ont ce doute et ont les moyens de vendre ce doute, évidemment, elles continueront à le vendre.
Oui, car en fait, on ne peut pas certifier de la non-existence d'un monstre. En plus, les cryptozoologues se plaignent toujours de ne pas être pris au sérieux et que la science les dénigre.
Oui, en se focalisant ainsi sur des animaux absolument légendaires, la cryptozoologie est assurée d'un bon relais dans la presse. Et donc, si la science ne parvient pas à prouver les témoignages, les cryptozoologues peuvent laisser entendre que la science est de mauvaise foi devant toutes les preuves dont ils disposent. Il s'agit bien d'un ensemble marchand qui va permettre d'attiser la curiosité du public et de vendre. Et en plus, plus il y aura de la publicité autour de l'espèce, évidemment, plus la réalité fictive de l'espèce sera assurée, en quelque sorte. C'est bien plus difficile de te vendre à un monstre inconnu bourré d'épines que personne n'aurait jamais vu que de te vendre le monstre du Loch Ness. Il y a cette confusion volontaire qui va attiser la curiosité, qui va éveiller tout ce qui peut être aussi une sorte de magie infantile. Tout ça, ça se mêle à une véritable stratégie du complot. Quelque chose serait caché ou la science officielle voudrait dissimuler des vérités ou les ignorer. Ça permet de réveiller là quelques fantasmes endormis sur le surnaturel et de faire surgir le mythe parce que ça rapporte de l'argent. La cryptozoologie va participer de cette mise en scène marchande avec des colloques, des livres et même un complot contre les propres témoignages. Alors, ce n'est pas l'objectif de la cryptozoologie. Il y a dans la cryptozoologie de véritables passionnés qui sont là pour faire des recherches.
Et envie d'extraordinaire.
Envie d'extraordinaire, mais avec cette envie d'extraordinaire et cette magie infantile qu'ils réveillent, eh bien, ils participent à l'ensemble de cela. On se rappelle, on l'a vu pour la licorne, combien les témoignages humains sont des choses fragiles. Ça nous enseigne que l'observation n'a rien à voir avec la science, mais qu'il faut une véritable interprétation scientifique, alors que là, on a des détails de description qui ne sont pas fondés sur des possibilités zoologiques, sur des vrais spécimens, alors que pour faire de la science, il faut évidemment que chaque étape soit reproductible par un autre zoologue.
Quelles sont les caractéristiques d'une publication cryptozoologique en gros ?
Alors, on a à peu près toujours les mêmes caractéristiques dans une publication cryptozoologique. Ils sont toujours publiés dans des revues spécialisées, qui ne publient en général rien d'autre, par des auteurs qui ont rarement une formation zoologique et qui ne publient aussi, eux, rien d'autre. L'écriture du papier suit, dans la majorité des cas, un plan qui est caractéristique, une très 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 longue introduction pour dire qu'il faut s'intéresser à ces observations imprécises, comme cela est le cas dans leur découverte, une méthodologie très 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 fragile, souvent fondée uniquement sur l'existence d'un témoignage ou sur l'existence de petits éléments. On va raconter quelle est la focale de la photo, par exemple, ou des choses de ce genre. Et l'auteur va présenter sa preuve, souvent une preuve unique. Dans la majorité des cas, c'est une trace ou une photo. Et c'est suivi d'une très très longue interprétation, souvent de plusieurs dizaines de pages, qui se conclut en général sur des témoignages. Une bibliographie très rare, avec une autocitation très très abondante. Bien penser que la longueur des publications en cryptozoologie est déjà un indice. Une publication scientifique contemporaine, c'est de l'ordre de 3 à 5 pages. Une publication cryptozoologique, c'est rarement en dessous de 30 pages.
Qu'est-ce qui finalement diffère donc d'une publication scientifique réelle ?
Eh bien, une publication scientifique réelle serait fondée sur des éléments évolutifs qui ne se basent pas sur la morphologie, mais sur tout un ensemble de données qui montreraient que l'espèce peut provenir de là, qu'elle correspond à ceci, qu'elle correspond à cela. Et bien entendu, ça serait crédible dans l'espace et dans le temps.
Et puis, il y a finalement le grand serpent de mer qui hante les esprits depuis le Moyen-Âge.
Voilà, on peut le déterrer sans arrêt, puisque ce sont depuis des siècles que dans les divers mers du globe, on a retrouvé des animaux dits serpentiformes qu'on désigne sous le nom de grand serpent de mer. Et donc, à chaque fois, on a des descriptions mythiques et effroyables, qui sont plutôt placées sous le signe de l'hallucination collective ou de la frayeur. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas observer quelque chose avant très très longtemps, puisque de toute façon, ces observations sont fondées sur des témoignages dans le brouillard. Alors, on a le fameux observation du premier serpent de mer par le princesse où on nous dit à 1h de l'après-midi, on a vu un très grand poisson qui avait une tête comme un morse, 12 nageoires parallèles. On voit très bien que toutes les descriptions sont d'une précision absolument incroyable. L'animal avait 9 mètres de long, il avait une bonne longueur de queue, etc. Mais ces descriptions très très précises ne se rapportent toujours qu'à un seul cas, un seul individu et parfois un seul observateur.
C'est une description qui a donné lieu à des figurations, à des récits de voyage.
Oui, d'autant que sur ce grand serpent de mer, il y a eu d'autres observations qui ont été faites, très peu en général, mais à chaque fois, ces observations montrent des animaux qui sont d'ailleurs plus ou moins contradictoires. Il faut attendre les années 60 pour dire en effet que les premiers cadavres identifiés ne sont pas des cadavres de serpents de mer, mais des requins décomposés ou des baleines décomposées. On s'aperçoit très très vite que les descriptions qui sont faites sont de toute façon anatomiquement invraisemblables.
Les cryptozoologues se plaignent toujours de l'indifférence des scientifiques à leurs indices. Y a-t-il de vrais projets scientifiques qui s'intéressent aux espèces inconnues, finalement ?
Alors déjà, il faut se rappeler qu'il y a une étude profonde de la biodiversité qui est faite par les scientifiques.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a des enquêtes précises à la recherche des espèces inconnues. Donc ça existe. Il y a des projets scientifiques menés par tous les muséums du monde, depuis les papillons en passant par les araignées et pourquoi pas les grands monstres. On a quand même découvert récemment, par exemple, l'antilope Samba, qui est une antilope tout à fait nouvelle pour la zoologie et qui n'avait jamais été identifiée par des cryptozoologues. L'étude de la biodiversité existe comme cela. Dans le sud-est asiatique, par exemple, on a découvert plus de 1000 espèces et tous les ans, ce sont des centaines d'espèces nouvelles qui sont recensées. En ce qui concerne les monstres inconnus dont parle la cryptozoologie, le problème est assez différent parce que la plupart du temps, il s'agit de témoignages et il n'y a pas grand-chose à observer. Mais il y a tout de même eu, en 2012, le Collateral Humanoid Project qui a été lancé par une équipe de chercheurs des universités de Lausanne et d'Oxford, sous l'impulsion d'un généticien qui a essayé de ramener à lui tous les échantillons qui pouvaient être collectés et sous la direction d'un zoologue, Michel Satori. Donc, pour la première fois, on a eu des scientifiques qui ont procédé à des analyses génétiques mitochondriales de tout ce qui pouvait être attribué à un Bigfoot, à un Yeti, à toutes ces créatures inconnues. Alors, les conclusions de l'étude ont été publiées 2 ans après dans une revue internationale qui est les Proceedings from the Royal Society et des résultats de plus de 36 échantillons identifiés par des particuliers ne révèlent absolument aucun animal inconnu.
Poils, hein.
Des touffes de poils, toujours des touffes de coyotes, de chèvres, de grizzlies, de tapirs, de ratons laveurs, même d'humains ou de chiens et de singes. Et il n'y a que 2 fragments qui provenaient d'un animal qui a été tué dans les années 1970 à Ladakh, en Inde, et un autre dans un nid yéti propre dans une forêt de bambou du Bhoutan, dont l'un était à brun doré. Et bien à chaque fois, on a découvert qu'ils appartenaient à une espèce d'ours assez rare, dont on ne connaissait pas tout à fait l'existence, qui a des ressemblances avec un ours préhistorique.
Oui, une sorte de surestimation scientifique.
Souvent, c'est ça, la cryptozoologie. On surestime l'importance zoologique de ces espèces en croyant qu'évidemment, une espèce nouvelle sera fantastique. Mais des espèces nouvelles, les zoologues en découvrent des centaines tous les ans. Et en général, ces espèces correspondent à des plans d'organisation zoologique ou à des travaux sur la biodiversité. Il y a des caractéristiques qui sont interprétées comme extraordinaires, comme quand une chauve-souris est en fait capable de manger du sang. Mais la description de ces espèces reste dans un esprit d'évolution biologique qu'on connaît fort bien. C'est ce que font des milliers de scientifiques dans le monde. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a découvert une espèce nouvelle dans le Maine-et-Loire, un monstre particulier.
Lequel ?
C'était une araignée qui a été découverte, donc qui n'est pas du tout différente de tas d'autres araignées. On découvre tous les ans des centaines d'espèces d'insectes, de grenouilles, de poissons, de mollusques. Et il y a très peu d'argent qui est consacré
à cette planète.
Voilà. Il y a très peu d'argent qui est consacré à cette biodiversité, alors qu'il y a des millions qui sont dépensés pour la recherche du seul monstre du Loch Ness, qui est tout à fait improbable. On voit très bien cependant que l'intérêt pour la cryptozoologie a un peu chuté de nos jours, un peu comme l'intérêt pour les extraterrestres devant l'improbabilité de découvrir cela. Puis aussi parce que les gens sont un peu mieux informés maintenant. On a donc plus l'impression d'avoir des informations, et même s'il reste des journaux à sensation pour relayer ces informations, évidemment, ça reste relativement faible.
Cependant, les scientifiques rejettent une grande partie de ces recherches sur des indices parfois bien discutables et légendaires.
Oui, en fait, toute la communauté scientifique s'interroge réellement sur le statut qu'on pourrait donner à cette science qui étudie des animaux dont on ne dispose pas d'existence réelle, juste des représentations culturelles. Alors, la première raison pour laquelle les scientifiques considèrent que c'est plus qu'improbable tout cela, c'est qu'il n'y a toujours eu aucune preuve, en dépit de quantité de recherches, aucun spécimen ni vivant ni mort. Donc, c'est pas forcément intéressant de se focaliser sur des espèces de ce genre. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment qu'on s'intéresse à deux groupes d'espèces qui sont les grands monstres marins comme le Loch Ness ou les grands singes, qui sont de manière zoologique assez improbables. On peut difficilement les intégrer avec leurs caractéristiques anatomiques dans l'histoire évolutive des espèces connues actuellement.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go
and I'm gonna snowball Jackson.
See if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach 'em what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you around town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking.
Well, now we got mad in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking about Jackson.
Vous écoutiez sur Radio Libertaire Johnny Cash et June Carter qui interprétaient Jackson.
Et nous voilà à la conclusion de cette émission sur la cryptozoologie. À la rencontre des légendes populaires et de la mythologie, la cryptozoologie ne se penche pas sur des espèces ignorées. Je ne sais pas s'il existe un monsieur Sasquatch ou une madame de Loch Ness, mais l'extrême rareté des individus trouvés et la multiplication des observations incongrues laissent entendre que ces espèces seraient au moins parthénogénétiques, à croissance rapide ou disposant en tout cas de très peu de protocoles amoureux. Ce ne sont pas des bêtes de sexe, ces animaux-là. Souvent farfelue, ou du moins flirtant avec les fantaisies les plus improbables, la cryptozoologie nous révèle en négatif ce que n'est pas la science. Car la démarche scientifique ne se contente pas de faire face à l'inconnu, et ne prend jamais des évidences pour des faits réels. Bien au contraire, et nous l'avons maintes fois répété, la recherche s'élabore contre l'obstacle épistémologique, et construit ses propres observations. Le soleil ne se lève jamais et ne se couche jamais, bien qu'on le voie faire. En revanche, on peut calculer les heures de ces apparitions si on se réfère à la connaissance du fonctionnement du système solaire. La théorie scientifique permet de tester des hypothèses, et c'est cela le fait scientifique. Trouver un os géant ne suffit pas, il faut reconstruire une morphologie, réfléchir à son écologie, à son évolution. Et avouons-le, si la recherche a mis à jour des faunes extraordinaires du Jurassique, c'est que sa méthodologie est tout de même assez bien menée. La volonté de traquer le sensationnel correspond bien à une curiosité insatiable et humaine, et parfois certains explorateurs méritants s'y emploient avec assiduité. Mais le monde marchand pollue souvent toutes ces affaires-là. Il s'agit d'une obsession de trouver un monstre qui renvoie à des fantasmes infantiles qui vont nourrir l'imaginaire. Car les mêmes, cette chasse d'êtres énigmatiques garde quelque chose d'ésotérique. On y retrouve régulièrement les mêmes habitudes, un agacement contre une science entre guillemets officielle qui garderait les yeux fermés, une région vaste, prétendument inexplorée, et surtout toujours un être gigantesque possédant des caractéristiques légendaires, avec une multitude d'observateurs ou d'observations tout aussi imprécises les unes que les autres. Des indices très menus, peu fiables, mais analysés avec un soin plus que méticulé et un déluge de descriptions, qui oublie tout simplement l'essentiel, la réalité. Car si la cryptozoologie cumule les phrases et les observations, la cryptozoologie, elle, n'abonde pas d'approche scientifique rigoureuse. Alors, reste-t-il des êtres vivants inconnus et des découvertes d'espèces nouvelles? Oui, bien sûr, et la zoologie se complète régulièrement d'incroyables animaux, le plus souvent des organismes appartenant à des groupes zoologiques déjà parfaitement identifiés. Il y a sans doute des centaines de grenouilles à découvrir, des milliers de mollusques et sans doute des millions d'insectes ou d'araignées. La biodiversité s'enrichit d'espèces nouvelles, mais ces découvertes suscitent souvent qu'un intérêt très limité, car la diversité biologique ne constitue qu'un tout petit aspect de la recherche scientifique. Alors que si Nessie fait couler autant d'encre, c'est bien davantage parce qu'il s'agit de sensationnels, de monstres nouveaux, qui constituent finalement un grand serpent de mer financier. Oui, le monde comporte encore beaucoup d'inconnus, et l'énigme de l'humanité reste encore à découvrir. Car vivre, exister vraiment, c'est-à-dire repousser l'exploitation capitaliste et les dominations pour nous ouvrir enfin notre humanité à la rencontre de la recherche du bonheur, n'est pas une chose aisée. Du moins, les idées libertaires peuvent être beaucoup plus fructueuses que le New Age ou les fantasmagories cryptozoologiques. Et c'est peut-être cette perspective-là qu'il faudrait explorer.
Ainsi se termine notre émission de Science en Liberté. Auditrices, auditeurs, curieux, vous pouvez toujours nous contacter par l'email sciencelibre@gmx.fr. Science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les 5 secondes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona, Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahedi, et nous allons conclure sur Brieda Flores Magon, 20 ans d'antifascisme radical, pas de justice, pas de paix.